Bienvenue sur Neo Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finances. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. Adieu. Adieu capitalisme. Adieu Occident. Nous nous sommes tant aimés, mais c'est terminé. Vous n'aurez plus mon argent, doit murmurer le reste du monde, après que l'Union européenne a franchi un seuil qui semble ébranler les fondations mêmes de notre système économique. En adoptant des mesures qui vont jusqu'à envisager la rétention des bénéfices générés par les avoirs russes gelés, sans fixer de date limite ni de conditions claires pour la réalisation de cette saisie, l'UE pose un acte lourd de conséquences. Cette démarche, bien que motivée par le désir de financer la reconstruction de l'Ukraine, soulève des questions sur la sécurité juridique et la confiance dans le marché européen. La situation est rendue encore plus complexe par les préoccupations concernant la capacité de la Russie à contourner ces sanctions, exacerbant ainsi les défis auxquels l'Europe doit faire face pour maintenir l'efficacité de son régime de sanctions. Les appels à une application plus stricte des sanctions et à une fermeture totale du marché européen aux combustibles fossiles russes témoignent de la gravité avec laquelle l'Union européenne considère la situation, mais aussi des défis pratiques et éthiques que cela implique. Cette décision, si elle est perçue comme une rupture avec les principes du capitalisme libéral sur lesquels l'Occident a prospéré, pourrait envoyer un signal négatif aux investisseurs internationaux et aux banques centrales du monde entier. La crainte que l'Europe, en agissant seule dans la saisie des actifs, puisse dissuader d'autres entités de placer leurs actifs en zone euro est réelle, mettant potentiellement en péril le rôle international de l'euro comme monnaie sûre. Dans ce contexte, l'Europe se trouve à un carrefour critique, où les décisions prises aujourd'hui pourraient redéfinir non seulement sa relation avec la Russie, mais aussi les principes fondamentaux de l'ordre économique mondial. La balance entre justice, réparation et les fondements du capitalisme libéral est délicate, et les ramifications de ces actions se feront sentir bien au-delà des frontières européennes. Abordons un aspect crucial de cette situation complexe, le cadre juridique entourant le gel et la saisie potentielle des actifs russes. Ces mesures, bien qu'ancrées dans un édifice de lois et de régulations internationales conçues pour maintenir la paix et la sécurité globale, soulèvent d'importantes questions quant à leur impact sur la souveraineté nationale, surtout lorsqu'elles sont prises en dehors des institutions internationales établies, comme l'ONU. Les sanctions, typiquement imposées par des entités telles que l'ONU, l'Union européenne ou des pays individuels, vise à contraindre un changement de comportement en réponse à des actes jugés inacceptables. Leur légitimité découle traditionnellement de traités et d'accords internationaux. Cependant, le gel des actifs russes, principalement orchestré par des nations individuelles et des unions régionales sans une approbation explicite de l'ONU, met en lumière une dynamique complexe où la souveraineté financière et les principes du droit international sont mis à l'épreuve. La souveraineté, principe fondamental des relations internationales, stipule qu'un État a le contrôle total sur ses affaires internes, y compris sa politique économique et financière. Le gel des actifs, en immobilisant les ressources financières d'une nation ou d'entité privée sur la scène internationale, pose donc la question de savoir jusqu'où peut aller l'intervention sans violer ce principe de souveraineté. L'Union européenne, en envisageant la rétention des bénéfices générés par ses avoirs gelés, s'aventure dans une zone juridiquement et éthiquement grise. Sans date limite ni conditions claires, la frontière entre sanctions légitimes et violations potentielles de la souveraineté financière devient floue. Cela soulève des interrogations. Quels sont les critères pour la levée de ces sanctions? Sur quelle base légale repose-t-elle spécifiquement dans ce cas? Et comment assure-t-elle le respect des droits des États et des individus concernés? En outre, l'adoption de mesures en dehors du cadre de l'ONU peut déstabiliser les fondations du droit international, bâties sur des siècles de diplomatie et de coopération. Cela risque non seulement d'ériger des précédents potentiellement exploitables de manière opportuniste par d'autres acteurs internationaux, mais aussi de fragmenter davantage la réponse internationale à des crises globales. Face à cette complexité, une approche équilibrée est indispensable. Elle doit tenir compte de la nécessité de répondre de manière effective aux comportements répréhensibles tout en respectant les principes juridiques internationaux et la souveraineté des États. La question cruciale devient alors, comment l'Europe et la communauté internationale peuvent-elles naviguer entre l'urgence d'agir et l'impératif de maintenir l'intégrité du système international, qui, malgré ses imperfections, a historiquement facilité la coopération et la paix entre les nations? Ce dilemme nous amène à réfléchir profondément sur les conséquences à long terme de nos actions, non seulement en termes de justice immédiate, mais également dans leur capacité à préserver et à renforcer l'ordre mondial basé sur des règles équitables et reconnues par tous. Examinons maintenant les précédents historiques pour mieux comprendre les implications à long terme des décisions prises aujourd'hui. L'histoire nous offre de précieux enseignements sur les conséquences des sanctions économiques et du gel d'actifs, en révélant à la fois leur potentiel et leurs limites. Prenons l'exemple des sanctions contre l'Afrique du Sud durant l'apartheid. Dans les années 1980, la communauté internationale a imposé un large éventail de sanctions économiques contre le régime d'apartheid, y compris le gel des investissements et des restrictions commerciales. Ces mesures, bien qu'ayant contribué à isoler économiquement l'Afrique du Sud et à exercer une pression pour des changements politiques, ont également eu des répercussions économiques profondes, tant pour l'Afrique du Sud que pour ses partenaires commerciaux. Ce cas illustre la dualité des sanctions. Elles peuvent être un outil puissant pour le changement, mais elles portent en elles le risque de conséquences non intentionnelles. Un autre exemple notable est celui des sanctions imposées à l'Irak dans les années 1990. À la suite de l'invasion du Koweït, l'ONU a instauré un embargo strict qui a entraîné des répercussions humanitaires dévastatrices pour la population irakienne, sans pour autant atteindre rapidement ses objectifs politiques. Ce cas met en évidence les défis éthiques et pratiques associés à l'emploi de sanctions économiques, en particulier lorsqu'elles affectent directement les citoyens ordinaires. Plus récemment, la saisie des actifs iraniens par les États-Unis et d'autres nations a souligné la complexité de tels actes sur la scène internationale. Bien que visant à contraindre l'Iran à renégocier son programme nucléaire, ces actions ont soulevé des questions sur la souveraineté nationale, sa légalité internationale et les répercussions sur les relations diplomatiques. Ces exemples nous enseignent plusieurs leçons. Premièrement, l'efficacité des sanctions et du gel d'actifs dépend largement du contexte spécifique et de la capacité à maintenir un front uni au niveau international. Deuxièmement, il est crucial d'évaluer soigneusement les conséquences potentielles, non seulement sur le pays ciblé, mais aussi sur la population civile et l'économie mondiale. Enfin, l'histoire nous montre que la diplomatie et le dialogue doivent accompagner les sanctions pour favoriser une résolution durable des conflits. En tenant compte de ces précédents, nous pouvons mieux appréhender les complexités et les dilemmes posés par le gel et la saisie des actifs russes. Cela nous rappelle l'importance de la prudence, de la réflexion stratégique et de l'engagement envers les principes éthiques et juridiques, afin que les mesures prises aujourd'hui ne deviennent pas les erreurs de demain. La troisième partie de notre discussion, axée sur l'impact du gel et de la saisie des actifs russes sur les investissements internationaux, nous amène à un point critique. La violation du droit de propriété. Ce droit est non seulement un pilier du capitalisme, mais aussi un fondement sur lequel repose le succès historique de ce système économique. En mettant en question ce droit fondamental, la décision de l'Union européenne peut être perçue comme une remise en cause des bases mêmes du capitalisme. Le droit de propriété est essentiel dans le capitalisme, car il garantit aux individus et aux entreprises la sécurité de leurs investissements et la liberté d'entreprendre. Ce droit encourage l'innovation, la prise de risque et l'accumulation de capital, moteur du développement économique et de la prospérité. Il crée un environnement où les acteurs économiques peuvent planifier, investir et croître en confiance, sachant que leurs actifs sont protégés par la loi. La décision de geler ou de saisir des actifs, en violant ce droit fondamental, peut entraîner des répercussions profondes sur la confiance des investisseurs internationaux. Si les acteurs économiques perçoivent que leurs investissements ne sont plus sécurisés par des droits de propriété inaliénables, cela pourrait entraîner une réévaluation globale du risque associé aux investissements dans les juridictions concernées. Cette incertitude juridique pourrait freiner les investissements, ralentir l'innovation et, à terme, inhiber la croissance économique. La violation du droit de propriété et les incertitudes qui en découlent peuvent dissuader non seulement les investissements directs étrangers, mais aussi décourager les entrepreneurs locaux. Sans la garantie que leurs droits de propriété seront respectés, les investisseurs et les entrepreneurs pourraient être moins enclins à engager des capitaux, ce qui ralentirait l'innovation et la création d'emplois. Cette dynamique peut avoir un effet domino sur l'économie globale, affectant le développement économique et la prospérité à long terme. En conclusion, la décision de l'Union européenne, en remettant en cause le droit de propriété, s'aventure sur un terrain qui touche au fondement même du capitalisme. Cette démarche, bien que motivée par des intentions politiques et sécuritaires, nécessite une réflexion approfondie sur ses implications à long terme. Il est impératif de trouver un équilibre entre la nécessité d'agir pour des raisons de sécurité internationale et la préservation des principes qui sous-tendent le développement économique et la prospérité mondiale. La voie à suivre doit inclure des garanties solides pour le respect du droit de propriété, afin de maintenir la confiance des investisseurs et de préserver les fondements du système économique capitaliste. Dans le cadre des réactions et contre-mesures face aux sanctions économiques, la Russie et d'autres nations affectées pourraient adopter une série de stratégies visant à minimiser l'impact de ces sanctions. Historiquement, cela a inclus la recherche de nouveaux marchés et partenaires commerciaux, le renforcement des liens avec des nations alliées ou neutres, et l'accélération du développement de secteurs économiques internes pour réduire la dépendance envers les importations. De plus, des mesures de rétorsion directes, telles que l'imposition de sanctions propres ou l'utilisation stratégique de ressources naturelles comme le gaz et le pétrole, pourraient être envisagées. Ces mesures de rétorsion ont le potentiel de transformer profondément le paysage du commerce international. L'utilisation des ressources énergétiques comme levier politique pourrait perturber les marchés mondiaux, induisant une volatilité accrue des prix qui affecterait les économies bien au-delà des pays directement impliqués. La diversification économique et la recherche de nouveaux alliés pourraient également entraîner une reconfiguration des équilibres commerciaux et encourager la formation de blocs économiques plus polarisés, menant à une fragmentation du système économique mondial. Cette fragmentation pourrait augmenter les barrières commerciales, réduire la coopération internationale et compliquer les chaînes d'approvisionnement globales, affectant la reprise économique mondiale post-pandémique. Au-delà des répercussions sur le commerce, ces dynamiques pourraient exercer une pression significative sur le système financier mondial. Les perturbations dans les flux commerciaux et les incertitudes politiques peuvent entraîner une volatilité accrue sur les marchés financiers, mettant en péril la stabilité et l'intégrité du système financier global. De plus, la recherche d'alternatives aux mécanismes de transactions traditionnels, tels que les monnaies numériques ou les accords de troc, pourrait remettre en cause le rôle des devises de réserve et des institutions financières établies, exacerbant la fragmentation du système financier mondial. Cette tendance vers la dédollarisation, avec l'adoption croissante de monnaies numériques par les banques centrales et le recours à des systèmes de paiement alternatifs, pourrait redéfinir les relations économiques internationales, menant à un paysage financier plus polarisé et potentiellement instable. Face à ces enjeux, la question du dialogue et de la diplomatie devient primordiale. Peut-on restaurer le dialogue dans un contexte de tensions croissantes et de contre-mesures potentielles? La communauté internationale doit peser soigneusement les conséquences de toute action et réaction, cherchant à maintenir un équilibre entre les impératifs de sécurité et la nécessité de préserver la stabilité économique et financière mondiale. Il est crucial de trouver un terrain d'entente qui permette d'adresser les préoccupations de sécurité sans compromettre l'architecture économique et financière qui soutient la prospérité globale. Cette démarche exige une approche mesurée et un engagement continu en faveur du dialogue pour naviguer dans ces eaux tumultueuses, soulignant l'importance cruciale de la coopération internationale pour surmonter les défis actuels. Pour conclure cette analyse approfondie, il est essentiel de reconnaître l'interconnexion entre les mesures économiques prises par l'Occident et les principes éthiques, juridiques et économiques fondamentaux qui sous-tendent l'ordre mondial actuel. Le gel et la saisie des actifs russes, bien que visant à répondre à des préoccupations de sécurité immédiates, soulèvent des questions complexes sur le respect du droit de propriété, l'éthique des sanctions économiques et leurs répercussions à long terme sur les relations internationales et la stabilité économique mondiale. La diplomatie et le dialogue émergent comme des piliers essentiels dans la recherche des solutions durables. Plutôt que de recourir uniquement à des sanctions qui peuvent parfois exacerber les tensions et avoir des conséquences imprévues, il est crucial de privilégier des approches diplomatiques qui favorisent la compréhension mutuelle et la coopération. L'histoire nous a montré que des résolutions de conflits réussies sont souvent le fruit de négociations patientes et de volonté de comprendre les perspectives de toutes les parties impliquées. Par ailleurs, explorer des alternatives aux sanctions traditionnelles peut offrir de nouvelles voies pour résoudre les désaccords sans nuire à l'ordre économique mondial. Des initiatives telles que les mécanismes de médiation internationale, les accords de coopération économique renforcés ou même des solutions innovantes comme les échanges culturels et éducatifs peuvent contribuer à désamorcer les tensions tout en préservant les intérêts économiques et sécuritaires fondamentaux. En somme, alors que nous nous trouvons à un carrefour critique, la nécessité de maintenir un équilibre entre la sécurité, les principes éthiques et juridiques et la prospérité économique n'a jamais été aussi impérative. Il est primordial que la communauté internationale, guidée par le respect des principes du droit international et du capitalisme libéral, s'engage dans un dialogue constructif et envisage des alternatives créatives aux sanctions pour naviguer dans le contexte géopolitique complexe d'aujourd'hui. Seul un engagement renouvelé envers la coopération internationale et la diplomatie peut assurer un avenir où la sécurité et la prospérité sont accessibles à toutes les nations dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux de chaque individu.